le festival du film des droits de l'homme One World s'est achevé jeudi avec la cérémonie de clôture qui a consacré le film Vol spécial du réalisateur suisse Fernand Melgar. Au cours des 9 jours du festival, version pragoise, les cinéphiles et spectateurs que le monde ne laisse pas indifférents ont pu voir plus d'une centaine de films, parmi ceux-ci Détroit, Ville sauvage du français Florent Tillon. Ce film raconte par l'image, mais aussi beaucoup par les sons, une ville de science-fiction qui ne peut que nous laisser nous interroger sur les limites de la pensée moderne à court terme. Anna Kubishta s'est entretenue avec le réalisateur. On l'écoute.
Culture sans frontières.
Florent Tillon, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer par vous demander tout simplement comment est né en fait ce film sur la ville de Détroit.
Tourisme. Non, j'étais à Montréal et j'allais à Chicago et j'aurais pu passer par un autre chemin, mais je voulais passer par là parce que j'avais entendu parler. Mais j'avais jamais vu aucune photo, je savais pas vraiment ce que c'était. J'avais entendu dire que c'était un peu une ville de science-fiction. Et voilà, je voulais voir. Et j'ai pas été déçu.
La science-fiction vous a attiré à la base, justement ?
Moi, je suis un grand fan de science-fiction, ouais. Et je pense comme beaucoup de gens de 30 ans, en fait. Et je repense à ce premier moment où je suis passé dans le centre-ville de Détroit avec nostalgie. Parce que c'était vraiment un moment que j'ai adoré.
C'est un moment général qui se reproduit pas, la première impression ?
Ouais. Ça se complète, ça se densifie, ça se complexifie. Mais le choc de se retrouver dans un décor de science-fiction, mais pour vrai. Et c'est ce que je dis souvent, en fait, c'est que quand j'ai traversé le centre-ville, après j'ai traversé les Midtown et les suburbs, et ça a continué, ce côté, évidemment les gratte-ciels vides, c'est le plus impressionnant, mais après c'est très impressionnant aussi, hein, tous ces lotissements qui disparaissent petit à petit avec le temps et tout ça. Mais ce que je dis souvent, c'est que je fais partie d'une génération qui ont été élevées au film apocalyptique, en fait. C'est-à-dire que le film apocalyptique hollywoodien, mais pas que, a vraiment explosé dans les années 60-70. Et c'est à peu près au moment où on est né. Depuis qu'on est né, Hollywood nous dit que la fin du monde arrive, en fait.
Le monde va finir bientôt, il faut s'y préparer.
Voilà. Et ils nous font fantasmer là-dessus, en fait, depuis 30-40 ans, ça fera à peu près notre âge. Et donc il y a une sorte de synchronisation entre ces fantasmes de fiction et le monde d'aujourd'hui, en fait. Mais ça est général pour la science-fiction, c'est pas que pour cet aspect-là. Il y a énormément d'autres choses en termes de technologie, en termes de K. Dick, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point Philippe K. Dick était un visionnaire. Parce que plein de choses qu'il avait dit d'une manière poétique se voient aujourd'hui. Dubaï, par exemple. Dubaï, c'est une ville complètement K. Dickienne. C'est une ville virtuelle.
Alors, Détroit, évidemment, quand on pense à Détroit, on pense à Ford, on pense aux automobiles. Pour les personnes qui ne sauraient pas exactement, et c'est ce qu'on voit dans votre film, c'est-à-dire que cette ville, finalement, est une ville presque fantôme. Hein, c'est une ville qui avait 2 millions d'habitants dans les années 50. Aujourd'hui, elle doit en avoir quoi, 700 000. C'est rien, surtout par rapport à la taille des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, justement, pour que cette ville aujourd'hui soit un peu post-apocalyptique ?
Ben, en fait, ça sera un peu long parce qu'il y a eu plein de choses, mais il y a eu une émeute, une des plus grosses émeutes dans les années 60, une émeute gigantesque. On dit noir, blanc, mais en fait, c'était pauvre, riche.
Ça se recouvre assez souvent d'ailleurs quand même.
Et ça se recouvre, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de noirs parmi les pauvres. Mais il y avait aussi des latinos, il y avait aussi des blancs d'ailleurs. Mais ça a été énorme, c'est-à-dire qu'il y avait carrément les chars d'assaut dans la ville, quoi, avec des incendies, il y a eu une destruction. C'est pas là où il y a le plus de morts, mais il y a vraiment le plus de destruction, quoi. C'était la guerre, quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque Détroit c'était la ville de l'industrie guerrière. Ils fabriquaient 3000 tanks par jour, rien que Détroit. Et ces tanks-là finalement sont revenus faire la guerre à l'intérieur même de la ville, donc c'est déjà assez fou comme truc. Mais après il y a eu aussi évidemment la délocalisation de Ronald Reagan. Qui a érigé la délocalisation comme modèle de société. Ce qui est intéressant comme concept. Et ce qui est aujourd'hui en train d'arriver partout en Europe, dans tous les pays occidentaux. Donc c'est les raisons principales pourquoi une ville industrielle et mono-industrielle, surtout, est dans cet état-là. Les émeutes, donc fuite, peur des gens, la sécurisation aussi, donc quelque part une vie hostile finalement. Faut pas oublier que par exemple qu'il y a un grand film à propos de Détroit, c'est Robocop. Robocop parle de Détroit. Si vous regardez le film aujourd'hui, vous rendez compte, et que vous connaissez un peu la ville, vous rendez compte qu'il y a énormément de choses qui viennent de la ville, qui sont dans l'histoire de la ville, même le Renaissance Center qui est dans le film, hein, un building de verre et d'acier, et au cœur du film Robocop, c'est là où ils inventent l'homme-machine, le robot flic, et même le robot flic, l'idée de l'homme-machine, c'est Détroit, c'est-à-dire le transformer les hommes en, comme dans Charlie Chaplin en fait, c'est la suite des temps modernes, c'est-à-dire transformer l'homme en machine, et c'est exactement Robocop.
Ce qui est intéressant justement dans le film, c'est qu'on voit en fait toutes ces ruines, par exemple des vieux bâtiments. Alors il y en a une qui est vraiment très impressionnante, c'est la ruine par exemple de cette vieille gare de style, j'allais dire, quasi néoclassique, etc., donc à moitié détruite. Et c'est intéressant parce qu'on se dit toujours justement que l'Amérique a une histoire récente, donc souvent on entend peu d'histoires, contrairement au vieux continent. Le vieux continent est justement symbolisé par toutes ces anciennes ruines des différentes civilisations qui sont succédées. Finalement, ce qu'on voit là, d'une certaine façon, et qui est symbolisé par ces ruines, c'est la fin d'une certaine civilisation aussi.
Bien sûr, vous avez tout dit.
C'est ce que ressentent les gens, justement.
Oui, c'est même, ça fait partie de la culture maintenant. Et la gare, effectivement, c'est on voit l'Empire romain, quoi, tout de suite. Mmh. C'est un des premiers trucs qui vient à quelqu'un qui a un peu de, qui pense un peu, qui aime rêver, qui aime penser. Tout de suite, on se dit, mais voilà, l'Amérique s'est toujours comparée à l'Empire romain. Ben, faut pas oublier que l'Empire romain, c'est devenu Rome en ruine aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, j'aurais adoré connaître Rome en 600. ça doit être quelque chose. Je pense que ça ressemblait beaucoup à Détroit, en fait. Rome en 600 ou 700.
Alors justement, les personnes que vous rencontrez pendant ces mois que vous avez passés à Détroit, on va pas tous les décrire, mais par exemple, il y a cette communauté de personnes qui jardinent. Ils sont géniaux, hein, ils sont tous là avec leurs petits lopins de terre, au milieu quasiment aussi de bâtiments en ruine. Et puis on se rend compte que finalement, d'une certaine manière, ils inventent une autre forme de civilisation sur les ruines de cette ancienne, même si justement ils reviennent à une forme de civilisation assez classique.
L'agriculture, c'est toujours la première chose en fait qui revient quand tout est fini, puisque c'est la base de la pyramide des besoins, enfin quelque part, quoi. Donc moi j'avais fait des, à l'époque où j'avais fait des recherches, j'étais tombé sur une photo des ruines de Babylone et une autre Rome en fait, et vraiment incroyable, mais j'avais vu dans ces ruines en fait des palmeraies au milieu des ruines de Babylone. Ça, c'était une photo d'explorateur, en fait. Et depuis, je sais pas quand est-ce exactement Babylone a été transformée en champ de ruines, mais pendant tous ces siècles-là, finalement, les seuls habitants de Babylone, c'était des fermiers qui avaient des palmeraies, quoi.
Au milieu des ruines.
Au milieu des ruines. Donc, c'est un classique.
Et puis, alors, on se rend compte que la nature reprend ses droits parce qu'on y voit se balader un faisan, un lapin, les petits écureuils, c'est assez classique. J'allais dire, qu'est-ce que, justement, dans le cadre des États-Unis, qu'est-ce que fait le gouvernement américain, justement, pour éventuellement aider les personnes qui sont retrouvées là-bas, je sais pas, au chômage, qui peuvent pas partir et qui sont coincées finalement à Détroit?
Moi, je suis pas spécialiste de cette question, mais je sais qu'il y a quand même une sorte de RMI qui vaut pas cher, que d'ailleurs certains n'ont pas, pour la petite histoire, certains n'ont peuvent plus avoir le RMI parce qu'il y a tellement de chiens dangereux qui traînent dans les quartiers que les facteurs n'osent plus venir dans certains quartiers, donc les gens peuvent plus avoir le RMI parce que c'est par courrier. Donc c'est assez drôle, dans un sens, c'est pas si drôle ça en fait. Mais voilà, pas grand chose sinon. Il n'y a pas de restructuration, c'est la culture qu'on découvre maintenant et qu'on est en train de découvrir ici, c'est-à-dire la culture du court terme. C'est-à-dire qu'on veut que ça claque maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'on veut que ça rapporte tout de suite. Ça, c'est la culture d'aujourd'hui. Et c'est vrai en art, c'est vrai en culture, c'est vrai en industrie, c'est vrai même en politique. C'est-à-dire que tout est comme ça. On veut que ça rapporte tout de suite. Or, s'il y a vraiment quelque chose à faire à Détroit, il faut que ce soit du long terme. Il faut re-avoir une vision, et c'est ce qu'ils font en fait.
Il y a des gens qui ont des visions.
Il y a des gens qui ont des visions et ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps.
C'est intéressant parce que justement à la radio, on travaille avec le son. Alors dans votre film, le son est important puisque Détroit est une ville vide, mais en même temps qui est pleine de sons. Est-ce que vous pourriez un petit peu décrire ces sons?
Donc ça, j'ai travaillé avec ma collaboratrice et femme Hélène Magne, qui a beaucoup été investie dans ce projet, évidemment par rapport au son, mais même au-delà. Ce qui est très intéressant à Détroit, c'est le rapport entre deux sons qui coexistent, qui sont un son de nature, de jungle presque, de forêt, et un son d'autoroute, quoi. Un son de bagnole, un son d'urbain quand même, mais un urbain bizarre, parce que c'est quand même vide, c'est-à-dire que
ça
on entend surtout l'autoroute. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire, c'est il y a l'autoroute avec les gens qui passent, mais sur les côtés, il n'y a pas de vie humaine tellement. C'est l'autoroute et les oiseaux.
Sans le brouhaha de la vie des
voilà,
gens, en fait.
Voilà, avec beaucoup moins de, quasiment inexistant de ce brouhaha de l'urbanité, quoi. Et donc, c'est un contraste super fort. Et si on s'éloigne de l'autoroute, on s'approche vraiment juste de là. Donc, il peut y avoir des endroits où c'est juste la forêt. On est au milieu de Détroit et on entend, on a l'impression d'être en, dans la forêt, en fait, au niveau du son. Et il y a des endroits où c'est les deux. On a essayé de faire un petit peu des idées, on a essayé d'avoir des idées aussi par rapport à ça. Par exemple, c'est la forêt, et puis d'un coup, on entend une grosse bagnole avec du hip-hop qui passe, puis qui disparaît à nouveau, puis c'est la forêt. Ou le People Mover. Le People Mover, c'est un train qui passe dans le centre-ville, une espèce de robot programmé où, que personne ne prend, mais qui continue tout seul à tourner au centre-ville avec des rails rouillés, donc ça fait un bruit absolument strident. Donc quand il passe, ça fait... Et quand il part, on entend au loin les rails qui s'éloignent, le son qui s'éloigne, et puis de nouveau les oiseaux qui reviennent calmement. Donc, tous ces trucs-là, c'était très intéressant à travailler par rapport au son.
Vous aurez envie de retourner à Détroit pour voir comment ça évolue ?
Ouais, bien sûr, pour voir les potes, les copains qu'on s'est fait là-bas, pour voir comment ça évolue. Ouais. Surtout pour voir les amis, en fait. On a vraiment fait des rencontres humaines extraordinaires là-bas.
Et le retour, c'était... étrange.
Ouais, le retour c'était étrange. Revenir dans une ville aussi dense, aussi habitée que Paris, ça nous a pris 2 semaines à peu près. 2 semaines pour se remettre à nouveau dans cette espèce de frénésie, dans ces flux et dans ce manque de liberté aussi. Donc ouais, il y avait beaucoup de nostalgie quand on est revenu. On était vraiment, putain, qu'est-ce qu'on a fait ? On aurait dû rester là-bas en fait.
On se déshabitue vite hein, finalement.
Et dans les deux sens, ouais. Ouais, j'aimerais y retourner, bien sûr. Mais je suis déjà retourné, en fait, pour la première a eu lieu là-bas.
Et comment les gens ont réagi, alors ?
Très, très bien. Très, très bien. J'étais vraiment très agréablement surpris de leur réaction. C'est parce que c'était vraiment les gens là-bas, pas des intellectuels forcément. Les salles étaient pleines. Il y a eu 4 jours de projection. Et je suis allé 4 soirs parler avec les gens. Et il y a juste eu à un moment donné quelqu'un qui a un petit peu dit quelque chose, mais qui était intéressante d'ailleurs. En réaction un peu par rapport au film, mais non, c'était charmant. C'est vraiment des gens charmants là-bas.